L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, votre quotidienne sur le 100.4 FM de Transistor. Nous sommes en direct depuis nos studios au Fou de midi et jusqu'à 13h. Et puis ce soir à 18h, c'est la rediffusion. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter sur Internet, sur le site web de la radio à transistor.bzh ou bien réécouter tous nos contenus. C'est dispo sur le web pour l'éternité. Oh, il y a un petit bouton au bout du fil, Alain, pour augmenter la force du casque, la puissance dans les oreilles. Voilà. Faut suivre le fil. Suivre le fil, voilà. Bon alors, on va démarrer. La compagnie Méharé est de retour en studio avec nous. Nous les avions reçus le 15 novembre dernier pour un déménagement un petit peu particulier. C'était celui d'une baraque de 200 mètres carrés. Un bâtiment forain chargé d'histoire qui a pris une nouvelle trajectoire tout en gardant bien sûr des perspectives artistiques et partageuses. Et pour en parler, il y a Emmanuela Nelly et Alain Maé. Vous êtes tous les deux artistes multidisciplinaires, on est obligé de dire ça, tellement la liste de leurs talents est longue. Bonjour, comment ça va ?
Bonjour. Salut.
C'est bon le casque, ça marche ?
Ouais, j'entends quelque chose. Ah bah,
c'est le direct, hein. C'est ça, hein. c'est vendredi, donc on ne va pas s'embêter. Bon, ça s'est passé comment le déménagement de la baraque ?
Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un déménagement
magique ?
En fait, ouais, non, c'était un très beau moment. Elle était dans un hangar depuis un an et demi, un hangar agricole, et on a fait un certain nombre donc de travaux petit à petit, et jusqu'au moment où on s'est dit qu'on pouvait y aller. On a fait un terrassement magnifique d'ailleurs dans un pré. À Saint-Rivoil, près de la salle des fêtes, de la bibliothèque, voilà. Donc on l'a monté, enfin Igor de Dromesco est venu avec deux de ses deux personnes qui étaient habilitées en fait à monter cette baraque comme lui, et il nous avait dit wow, allez, en une journée c'est fait. Et en fait, en une journée, ça a été fait.
Ah, super.
Avec l'aide d'une vingtaine de personnes, hein, de Saint-Rivoil, Saint-Cadou notamment, et Bottmer.
Chouette. C'est pas trop dur pour Igor et Lily de Dromesco de se séparer de ce bâtiment ?
Ouais, j'ai pas l'impression. C'était comme un passage, presque une filiation. Je dirais, il y avait trois baraques à la toute fin, qui étaient au campement à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Et il y en a une, donc l'historique est à Saint-Rivoil, une autre qui est du côté de Brocéliande, qu'il a donnée à sa fille, et une autre qui est du côté de Montpellier, au Printemps des Comédiens, voilà.
D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler le but de cette installation ?
On essaye de créer un lieu de convergence, un lieu d'expérience, de passage d'expérience, un lieu artistique de rencontre pour faire des liens avec des personnes diverses, des connaissances diverses. Enfin, voilà, c'est un peu.
C'est bon.
Ouais. Voilà. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est vraiment par le biais artistique entre projections, spectacles, concerts,
conférences
et écoutes sonores. Enfin, il y a vraiment des choses très diverses.
Les concerts hier soir.
Donc, c'est vraiment des approches très diverses autour d'une thématique qui dure normalement un mois, qui dérive en fait de nos créations, soit passées, soit présentes, enfin, ou en cours. Et à partir de cette thématique principale découle toute une série de liens en fait avec des personnes que on a connues dans notre parcours, des personnes qu'on a rencontrées ou qui sont là en ces moments aussi. Donc voilà, c'est tout un tissage un peu de diverses approches qui peut-être espèrent aussi faire converger des personnes de diverses. Par exemple, essayer de casser peut-être quelques frontières de entre ville, campagne, universitaire ou pas. Enfin, voilà.
Vous dites même que c'est des chapitres. Carrément, c'est pas vraiment des mensuels thématisés, c'est pas, on n'est pas dans une médiathèque. Non, vous, c'est chapitre, ouais. C'est un petit peu comme un livre.
Oui.
C'est un peu ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dedans. Comment vous choisissez, en fait, tous vos intervenants? C'est vraiment en fonction de vos créations, ça dépend de vos créations artistiques, oui. Ou c'est plutôt l'inverse?
Non, c'est vraiment des créations, donc c'est parce que chaque création a amené... Un travail forcément de recherche, donc de rencontres, puis il y a des liens, donc ils découlent vraiment de ça. Et le chapitre, c'est parce que on parle beaucoup aujourd'hui du récit, mais donc c'est un peu un mot qui est devenu un peu c'est vidé un peu de son magnifique sens, justement de parcours mental intérieur, de voyage, et les récits donc voilà, il y a vraiment un parcours, je pense, à l'intérieur d'un chapitre, d'un roman qui peut être plus ou moins court. Et du coup, il y a plusieurs strates et ça permet aussi peut-être une complexité. C'est un peu comme dans les romans, on peut avoir des personnages, des lieux, des architectures, des envolées musicales aussi.
Et vous m'avez envoyé un petit extrait de Baraka. J'ai regardé un petit peu. Mmh. C'est vrai, c'est hyper chargé. Il y a beaucoup de contenu dans vos spectacles. Il y a des trucs auxquels moi je ne m'attendais pas vraiment. Mmh. J'ai pas tout vu. Je veux dire parce que j'ai pas tout le spectacle complet. J'ai que des petites bribes comme ça. On va en écouter un petit bout. Ça va durer environ 2 minutes. Et vous allez voir, c'est super intéressant parce que tout est en lien avec cette fameuse baraque.
Des craquements. Quand il fait un massage, mais t'as comme je cotais. Je passe la rivière sur la glace.
Plus et nous aimons clés. Un glace à fistou. Agonné ouïde. Et comme lorsqu'il l'a à Gégez. Un virilier me verrait un bras de bougédite. Plus, trop rodite. Et tardif à la fin d'un. Gouespé de ma relique. Agonné de vide. Braves et dugitites, cleus, baisers, arbédibium, wargain arbédra.
Au moment du sauvetage, du sauvetage, quand ils arrivent à bord du bateau mère, ils ont des visages de terreur, d'épuisement. Énormément des gens qu'on récupère sont passés par des centres de torture. C'est systématique.
Ouais, les gens suspendus, les brûlures en plastique, les membres coupés.
Fouetter sur les yeux, ça, il y a eu un moment là, avec ceux qui ont les paupières éclatées, la volonté de marquer le visage. Ils arrivent sur la plage, on leur dit bah, tu vois l'étoile, c'est ton bateau, t'as un poste à souder, voilà, tu soudes et après tu pars.
Et donc, ça, c'est un extrait de Baraka. C'est un de vos premiers spectacles, je crois. C'est pas tout à fait le premier, c'est le deuxième ? Baraka, il date de quand ce spectacle?
Il est tout récent, en fait.
Ah, il est tout récent.
C'était la première en création. Fait. C'était même la première.
Ah, et ça a terminé. C'est le dernier spectacle du coup de Méharé, mais c'est le premier.
Premier dans la
c'est l'autre. C'est l'autre, le premier spectacle. Là, Baraka, c'était le premier, et pas le premier spectacle. Ok. Donc ça, c'était pendant le chapitre 1. Qui s'est déroulé, cette dernière cette première quinzaine de juin. Le chapitre 1 s'appelle
Deuxième.
Du 15 mai au 15 juin.
C'était du 15 mai au 15 juin.
Un mois, en fait.
Ah, ouais. D'accord, ok.
Du 15 mai au 15 juin.
Et ça s'appelle donc Baraka Popoli. Ça, alors, si ma traduction est bonne, c'est les gens de la maison en italien ? Les maisons populaires ?
Non, Popoli, en fait, c'est population.
C'est population.
C'est population.
Au peuple.
Au peuple, mais c'est plutôt population dans le sens large du terme, comme on peut dire les populations dans la nature. Enfin, il y a plein de populations dans les marais, par exemple.
D'accord. Bon, merci Google pour la mauvaise traduction. Donc, ça parle de diversité, de vivants et donc des populations. C'est un spectacle où vous intégrez énormément de choses. Comme ce qu'on vient d'entendre, ce témoignage d'une personne, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on vient de... C'est quoi ce témoignage ?
En fait, on a entendu trois moments. Le premier moment, c'est qui est au début aussi des spectacles, c'est un enregistrement avec Étoile Germain, qui est un poète innu de la communauté parce qu'il est décédé il y a 2 ans, et qui était donc de la communauté de Mastoyach au Québec.
Lac Saint-Jean.
Près du lac Saint-Jean. Et c'est quelque part un peu notre source profonde, en fait, du spectacle. Parce que quand on travaille, je pense qu'on va chercher des sens et des éléments qui sont qui peuvent vraiment bouger, enfin, pour nous à l'intérieur, en tout cas même pour la danse, moi pour c'est quelque chose, enfin, en tant que danseuse, mais aussi qui crée un espace qui n'est pas un message ou une information, mais qui touche, peut-être qui essaye de toucher quelque chose de profond, en fait. Et c'est un hommage à Étoile, parce que, et puis après on a eu il y a eu un petit extrait aussi du poème Cleuse, Talu, de Fanche-Perrou, qui est décédé aussi récemment.
Il y a très peu de temps,
un poète breton, et puis ça termine justement avec la parole de Jérôme Boutin, qui avec Thérèse Guibaud, enfin, dans le spectacle, sont tous les deux sauveteurs en mer dans l'Ocean Viking, un bateau des SOS Méditerranée. Et qu'on a déjà reçu à la baraque ces jours-ci. Il y a eu tout un moment justement dédié à SOS Méditerranée, à leur travail et à leur engagement vraiment pour essayer de sauver des personnes. Parce que je raconte un peu tout ça, ça semble effectivement complexe, mais effectivement, je reviens sur quelque chose qu'on avait évoqué l'autre fois. La vie, elle est complexe, en fait. La vie, tout élément, on fait partie de plusieurs éléments, qu'ils soient intérieurs, extérieurs, de la nature. En fait, banaliser nos vies dans une espèce de phrase publicitaire, j'allais dire, mais c'est dommage, parce que et beaucoup de choses sont vraiment liées ensemble et font partie de d'une même question, d'un même mouvement vital. Et là, la question de Baraka, et qui est peut-être pas par hasard justement posée au début de la baraque, c'est est-ce que on peut cheminer ensemble, est-ce que l'entraide, il est vraiment vital, hein, qu'est-ce qu'on fait de nos vies, en fait, le geste poétique aussi, la poésie, la beauté, c'est donner la main aussi, est un socle, en fait, de possible ou pas. Et finalement, je pense que les poètes, comme les sauveteurs en mer, ils nous donnent une réponse, en fait, par rapport à tout ça. Et c'est ce qu'on avait envie de...
Ce qui sépare, en fait... ces deux moments, au niveau sonore en tout cas, mais aussi sur la scène aussi, c'est un enregistrement que j'avais fait en 1989 de la chute du mur de Berlin, et j'étais là à ce moment-là, au moment où il est tombé, donc on entend toutes les personnes de partout d'ailleurs, qui sont en train de taper avec différents outils pour casser ce mur. Et voilà, c'est pour aussi dire que les murs tombent.
Oui.
Et puis c'est vrai que là, l'enchaînement, est parce que c'est aussi peut-être une petite annonce, mais c'est vrai que l'enchaînement aussi dans le son, il y a ce mur, mais qui fait à la suite de ces sons, il y a aussi la parole d'un jeune palestinien qui nomme les différents lieux en Palestine qui ont été détruits par l'armée israélienne
à Gaza, ouais.
À Gaza. Et aujourd'hui il y a une marche mondiale pour la paix. Beaucoup de personnes dans beaucoup d'endroits du monde essayent de peut-être atteindre Rafah et ces grands murs qui nous séparent d'un génocide monstrueux. Et c'est vrai que c'est ça aussi. Est-ce qu'on peut finalement, au-delà de tous les discours, finalement, vraiment ne pas voir qu'il y a véritablement des morts innocents et que voilà, est-ce qu'on se barricade ou est-ce qu'on tend la main, quoi, finalement.
Est-ce que du coup, je me suis posé la question de cette question qui est peut-être un peu bizarre, c'est que votre œuvre, Baraka, elle est très complexe pour des gens, peut-être des néophytes, un petit peu comme moi. Et je me suis posé la question, est-ce que la baraka apporte une vraie complémentarité en termes de compréhension de votre œuvre ?
En fait, je pense qu'on ne fait pas du tout du travail pédagogique, du tout, dans le sens que...
Non, en fait,
quelque part, c'est juste...
Je dirais que c'est quand même quelque chose de très... Enfin, notre travail est très intuitif pour chacun. Très instinctif aussi. Après, de ce qu'on fait, j'ai l'impression, enfin, je me trompe peut-être, la complexité, elle se fait parce qu'on est en mouvement ou en jeu ou sur le plateau, et c'est de là que ça vient. C'est aussi nos vies, hein, tu vois, qui sont présentes. Donc bon, avec tout le background de nos parcours, quoi, voilà.
Mais c'est vrai que aussi je pense en général depuis 20 ans, on a tous les spectacles quelque part, ils ont les mêmes traits, en fait, la même complexité, mais en fait on a pu voir jusqu'au là que quand les gens viennent voir, enfin, nous on demande de comprendre rien quelque part véritablement, mais si on arrive, s'il y a quelque chose qui se met en mouvement, qui peut-être s'attache à une chose, qui regarde une chose, pas forcément le tout, mais comme dans la vie en général. Donc, c'est un peu pareil. Si tu serais venu, par exemple, là, peut-être, tu aurais vu Vincent dessiner et tu aurais voyagé avec ses dessins un moment, ou bien tu t'es resté attaché à cette parole de Jérôme. Enfin, on ne sait pas vraiment. Mais, et c'est une liberté aussi pour les gens de ne pas être obligés de devoir comprendre vraiment quelque chose. Nous on est là, en tout cas on est présent, on est présent et on s'efface en même temps, quoi, par rapport à ces choses.
Vous êtes super preneur, en fait, de la subjectivité des gens. Chacun a le droit de voir un petit peu ce qu'il a envie de voir, quoi. C'est ça qui est intéressant, ouais. Aussi pour vous, j'imagine.
Je crois que chacun se fait son voyage, mais en même temps il y a quelque chose qui est dit de très clair. Voilà.
Ah bah là, comme là, oui, là c'est sûr, c'est même un peu choquant, je trouve. On se laisse un petit peu embarquer par toute votre prestance sur la scène, par les plastiques avec Vincent Deschamps, c'est ça ?
Non, Fortin. C'est un dessinateur belge. Oui.
On le voit dessiner, c'est très joli. Puis d'un seul coup, pouf, il y a ces paroles qui tombent, qui sont un peu vraiment très dures. Et c'est vrai qu'on fait un petit peu comme ça. Hein. C'est un petit peu du yo-yo de ce que j'ai vu, en tout cas. Et on va attaquer parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Le chapitre 2, leur thématique, et là, c'est pour, je ne sais pas me gourer dans les dates, 20 juin, 14 juillet, un petit mois, un bon mois quand même. Et là, on va partir un petit peu au Maroc, si j'ai bien compris, avec Siyala, les villes invisibles. Alors, pareil, il y a deux choses, de ce que j'ai compris, en tout cas. Il y a une rencontre avec des tisseuses au Maroc.
Oui.
Et puis, il y a en même temps un parallèle avec une œuvre, un livre. Il y avait, je crois, aussi la même chose un petit peu pour Baraka. Non, il n'y avait pas, un livre de...
En fait, il y a souvent beaucoup de livres, que d'ailleurs, ouais. On les met à la baraque, on a une petite table avec tous les livres qui font partie de toutes nos pérégrinations mentales et pratiques.
Bon, aussi, oui.
Voilà. Donc, en fait, Le Ville Invisible, c'est un texte Calvino qui a écrit
Italo Calvino. Italo Calvino, oui.
Voilà, et qui faisait partie, en fait, de ce spectacle Siala. Siala. Mais du coup, on a donné ce titre pour ce chapitre, Siala, les villes invisibles, parce que voilà, pour on trouvait assez beau, mais pour vraiment peut-être faire évoquer les sous-thèmes un peu, que c'est justement femmes, conditions de vie et émancipation. C'est pour ça que voilà.
C'était quoi alors la rencontre avec la coopérative Nakasha de Salé?
C'était en 2004, au début de l'association, de la compagnie. C'était le tout premier spectacle. Et donc, on était partis à la recherche du tissage berbère, des tapis berbères. Et on a fait donc un spectacle avec ces tisseuses de la coopérative Nakasha, du bidonville de Salé, au Maroc. C'était une coopérative où les femmes...
Près de Rabat.
Les femmes, c'était un travail pour les femmes, alphabétisation. Et puis, elles faisaient donc des tapis traditionnels, mais elles faisaient des tapis béchaouettes, qui normalement sont des tapis qui sont utilisés comme des paillassons, normalement au Maroc.
Tapis berbères, oui.
Des tapis berbères, mais eux, elles faisaient, elles ont pensé de les mettre comme des tableaux, de l'accrocher vertical au mur. Donc, c'était des créations. Donc, on a travaillé avec elle sur un spectacle où il y avait donc deux métiers à tisser traditionnels sur scène, sept tisseuses, deux danseurs marocains, deux danseuses, on va dire européennes, françaises, et puis moi, un cinéaste et un musicien ici présent, Alain Maé, toujours dans la musique. Et donc là aussi, c'était assez multidisciplinaire, mais on a pris en fait le base aussi pour la baraque. Peut-être la pierre ou la base de notre travail, Siala, parce que là aussi, à partir de là, on pouvait tirer des fils. Là, c'est le cas de le dire,
oui.
C'était ça, vraiment. Mais et c'était par rapport à des questions de femmes, de conditions de vie et d'émancipation, qui sont quand même... voilà, on va dire des thématiques ou des questions qui sont assez importantes. Pour les femmes, c'était très important pour nous de faire un travail avec La Marée, qui est une association qui a trois ans, qui est basée à Plounéo-Ménez, mais qui fait un travail remarquable dans les monts d'arrêt, d'accompagnement de femmes victimes de violences, de femmes ou de violences sexistes et sexuelles.
Donc elles sont présentes le samedi 21 juin.
Oui,
d'ailleurs.
En fait, il y aura donc du coup trois jours vraiment dédiés à la question des femmes, et surtout des préoccupations qui sont liées aux femmes, parce que mine de rien, on subit toujours trop de violences et de discriminations. Donc on continue, et je pense qu'il faudra continuer. Donc là, il y aura effectivement un moment entre le 20 et le 22 juin pour dédier aux femmes. Il y aura donc La Marée, il y aura Pascaline Simard, qui est une réalisatrice qui a fait deux films très très poétiques, Interruption volontaire sur l'avortement, et puis Dérobé, qui c'est surtout sur le trafic des femmes et prostitution forcée. Et il y aura aussi deux auteurs magnifiques, Alain et Désiré Frappier, qui auteurs de romans graphiques, qui vont présenter le 20 un livre, un roman graphique qui s'appelle Le Choix, justement autour de l'avortement. Il y aura des rencontres, il y aura les œuvres de Marion Plumet aussi qui vont être exposées. Une rencontre aussi avec Fatima Benchi, qui était la femme qui nous a donc accompagné, traduit qu'on était avec les tisseuses de la coopérative Nakasha. Et Fatima, depuis 20 ans, elle continue à travailler pour des coopératives de femmes. À l'époque, c'était des coopératives de tisseuses. Là, c'est des coopératives de femmes paysannes à Marrakech, avant à Tanger. Donc, depuis le temps, elle n'a jamais arrêté s'est dédiée, elle aussi. Elle a dédié, donc, du coup, pas mal de sa vie pour accompagner au sein de différents ONG le travail des femmes en coopérative. Donc, il y a toute une question là aussi qui surgit de soi, qui découle de soi, l'émancipation de vie. Il y aura une rencontre autour des conditions de vie, du coup, pas dans le Maroc, mais dans le monde d'arrêt, avec plusieurs associations, planning familial, l'association Joie, des infirmières aussi à domicile, enfin pour faire un peu le... pour se retrouver, voir aussi comment chacun travaille, les expériences que chacun a, et puis peut-être se renforcer aussi sur les difficultés qu'on rencontre, parce qu'il y en a pas mal dans le monde d'arrêt. C'est un endroit magnifique, mais c'est vrai qu'il y a, il y a des conditions de vie qui parfois très très précaires, donc il faut en parler, voilà. Et puis il y aura tout un volet très important, en tout cas pour nous, du 11 au 14 juillet, un moment très cinéma, enfin, autour de la culture palestinienne. Et c'est toute une programmation, vraiment comme un mini-festival de cinéma qu'on a pu organiser avec Ayed Naba et puis Rachel Bizien. Ayed, c'est un réalisateur palestinien, et Rachel, productrice en fait de films avec sa boîte de production. Et on a pu construire toute une mini festival avec différents films, dont voilà, des documentaires, et puis Borderline, Ryuichi Hirokawa, La mémoire de l'oubli, It's Not Again, et puis Sunbird, de différents réalisateurs donc palestiniens, dont aussi Ayed Naba qui va être présent. Rachel Bizien aussi va être présente. Et puis il y a un film aussi, Par mon nom, d'un réalisateur juif, qui est, parce que c'est très important aussi de faire voir de comment... enfin, Daniel Kopfenstein, il a créé ce magnifique film voilà, qui montre un peu la complexité pour beaucoup de juifs dans le monde de prendre position et qui prennent par rapport à l'État israélien. Et puis Wardi, qui est un film d'animation, est magnifique, film d'animation très touchant, de Mats Grorud, qui est norvégien et qui a fait voilà, ce film en plusieurs années, et c'est un film bon, à partir de 12 ans, parce que c'est vrai que bon, c'est des films qui peuvent être
choquant
un peu, ouais, c'est, enfin, choquant,
c'est de l'animation,
c'est de l'animation. Mais oui, mais... tous les films ils parlent quand même de sujets qui sont pas très, voilà, qui sont pas légers actuellement, enfin, y a...
très funky, oui.
Ouais.
Et voilà.
Mais il y a beaucoup de musique aussi, il y a deux films sur la musique.
Borderline, c'est vraiment un film magnifique sur la musique, palestinienne, dans tous voilà, ces aspects traditionnels comme hip-hop, comme
Et il y aura
voilà,
des musiciens palestiniens et autres. Ouais. À ce moment-là, voilà.
Super. On passera peut-être vous voir à la baraque pour enregistrer un peu plus d'infos sur vos spectacles, parce qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Alain et
Merci
Emmanuel.
Merci beaucoup à toi.
Merci.